Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ce que la photo reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois, disait Roland Barthes. Lui a saisi ses instants, à chaque fois différents, pendant de longues années et a vu défiler les plus grandes stars de son époque devant son gros objectif. Stéphane Bern nous raconte celui qu'on appelait Nadar.
Nous sommes à Paris en 1856. Le poète Charles Baudelaire, 35 ans, pousse la porte d'un atelier de photographie situé au 113 de la rue Saint-Lazare. Dans la seconde, un géant fantastique à la chevelure rousse en bataille et à l'éternelle vareuse écarlate surgit face à lui. C'est son ami Félix Tournachon, l'un des photographes les plus courus de la capitale, celui dont le tout Paris connaît le pseudonyme, un surnom aussi vif que lui, Nadar. Les deux hommes traversent les locaux sous les yeux de Louis Daguerre, l'un des pères de la photographie dont le portrait orne les murs. Nadar installe son modèle dans un décor dépouillé et prend le temps de le mettre à l'aise pour qu'il s'abandonne. Baudelaire est debout, il fixe la chambre noire, une boîte en bois placée sur un trépied, d'un regard noir lui aussi et intense. On ne devine aucun sourire sur ses lèvres fines. Nadar capture cette allure de dandy invétéré, ses poings que l'on devine serrés au fond de ses poches. C'est le portrait miroir du poète maudit, le cliché qui révèle la couleur de son âme. C'est l'art du portrait par Nadar qui immortalisera de la même façon tous les grands noms de la seconde moitié du 19e siècle. Une décennie plus tôt, dans les années 1840, Félix Tournachon est un jeune journaliste fraîchement débarqué de Lyon qui tire de maigres revenus des articles et caricatures qu'il publie dans la petite presse. Puisque la mode est au sobriquet, il signe un jour Tournadar, un autre Nadarchon, puis enfin Nadar. Plusieurs fois par semaine, on le retrouve à un boc à la main au café Momus. Cet établissement de la rive droite est le lieu de rendez-vous de la bohème et son lot d'artistes sans le sou. Attablé jusqu'à l'aube, Nadar et ses amis critiquent cette société bourgeoise hypocrite et celui qui l'incarne, le tout-puissant Bonaparte, élu président de la République après la Révolution de 1848. Mais pour ces républicains ardents, le pire est à venir. Le 2 décembre 1851, aux premières heures du jour, les hommes de Louis-Napoléon Bonaparte font tomber l'Assemblée nationale et la Deuxième République avec elle. Un an, jour pour jour, après ce coup d'État, le Second Empire est proclamé par celui que l'on appellera désormais Napoléon III. Dès lors, la presse est muselée, la censure fait rage. Comme bien d'autres, Nadar n'a pas le choix, il doit poser son crayon frondeur et abandonner la caricature politique s'il veut éviter de croupir derrière les barreaux. Alors, puisqu'il ne peut plus se moquer du pouvoir, Nadar va s'employer à mettre en lumière ceux que le pouvoir cherche à bâillonner. Il se lance dans un projet d'envergure, la composition d'une fresque sur laquelle apparaîtront plusieurs centaines de personnalités du monde des lettres et des arts. Le résultat, c'est le Panthéon Nadar, une lithographie qui représente un cortège d'esprits libres. On y reconnaît les traits caricaturés de Georges Sand, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, les Dumas père et fils, Alfred de Musset et plus de 200 autres personnalités du siècle. Le succès est immédiat. Le Panthéon Nadar se vend comme des petits pains chez les marchands d'images et permet à Nadar de jouir d'une certaine notoriété. Pourtant, l'entreprise n'a pas été simple. Chaque portrait dessiné des quelques 250 sujets demande de poser très longuement. Pour aller plus vite, le frère de Nadar, Adrien Tournachon, qui l'assiste, s'est formé à une technique à la pointe de la modernité, la photographie, pour que le temps de pose soit réduit. En 1854, Adrien Tournachon, qui se rêvait peintre, devient donc photographe. Il ouvre son atelier, boulevard des Capucines, à deux pas de l'Opéra, collabore un temps avec Nadar, qui lui finit par racheter le vieux matériel de Louis Daguerre pour installer sa chambre noire quelques mètres plus loin, rue Saint-Lazare. Oui, mais voilà, le plus jeune des Tournachons utilise le même surnom que son frère aîné. Ses clichés sont signés Nadar jeune, ce qui entraîne évidemment quelques confusions. Et voilà qu'un beau jour, le premier Nadar manque de s'étouffer en découvrant que son cadet a fait inscrire sur sa vitrine les mots suivants « Nadar, photographe de Sa Majesté l'Impératrice Eugénie ». Pour Félix, c'est un affront, un outrage, une trahison. Lui, ce républicain convaincu, ne peut admettre que l'on associe le pseudonyme qu'il s'est choisi à un empire qu'il pourfend. Il intente un procès à l'encontre de son frère pour l'empêcher d'utiliser son pseudonyme. À l'issue d'une longue procédure, la justice tranche en faveur de Félix. Nadar, c'est lui et personne d'autre. Si les déboires familiaux des Tournachons attisent les moqueries du tout Paris, ils n'empêchent pas les affaires de fonctionner, et même plutôt bien. Devant l'atelier de Nadar, c'est bientôt un balai incessant de calèches qui dépose tout le gratin des arts et des lettres, si bien que dans la bouche de tous les cochers de la capitale, la rue Saint-Lazare est bien vite rebaptisée la rue Saint-Nadar. Nadar y fait le portrait de l'actrice Sarah Bernhardt à ses débuts. Son œil sensible immortalise les reflets de Gustave Doré, Hector Berlioz, Alexandre Dumas, Théophile Gauthier, Eugène Delacroix et tant d'autres. En 1857, lors du procès qu'il opposait à son frère, Nadar exprimait en ces mots ce que devait être pour lui l'art de la photographie et du portrait. Faites Nadar.
La photographie est une découverte merveilleuse dont l'application est à la portée du dernier des imbéciles. La théorie photographique s'apprend en une heure, les premières notions de pratique en une journée. Tout le monde peut aspirer du jour au lendemain à se dire photographe sans témérité. Ce qui ne s'apprend pas, je vais vous le dire, c'est l'intelligence morale de votre sujet. C'est ce tact rapide qui vous met en communion avec le modèle et vous permet de donner, non pas banalement et au hasard, une indifférente reproduction plastique à la portée du dernier servant de laboratoire, mais la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime.
Mais alors que les ateliers de photographie se multiplient sur les boulevards, Nadar trahit bientôt ses idéaux artistiques.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ils ont shooté les plus grandes stars. C'est le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. Le portraitiste connu sous le nom de Nadar, lui, a immortalisé toutes les grandes figures des lettres et des arts de la seconde moitié du 19e siècle, comme Charles Baudelaire, Victor Hugo ou Georges Sand. Et vous nous disiez, Stéphane, que la concurrence de plus en plus nombreuse a fini par avoir raison de l'art de la photographie, selon Nadar.
Au début des années 1860, après avoir immortalisé l'intelligentsia parisienne à sa manière, Nadar voit son activité diminuer. Depuis quelques mois, les Parisiens s'arrêtent moins chez lui. Ils vont chez son principal concurrent, Eugène Disdéry, installé boulevard des Italiens. Ce photographe rencontre un franc succès depuis qu'il a inventé le portrait carte, un cliché de petit format beaucoup moins cher. Alors Nadar doit s'adapter. Il quitte la rue Saint-Lazare pour s'installer au 35 du boulevard des Capucines. Cet atelier bien plus grand est inondé de lumière par d'immenses verrières. Sur la façade, le portraitiste fait installer une enseigne en grandes lettres rouges, éclairée au gaz. On y lit sa signature, ce pseudonyme connu de tous, Nadar. Il retrouve une clientèle massive, photographie encore Édouard Manet, Georges Clemenceau, Gustave Courbet ou Jules Verne. Saisit Victor Hugo et sa barbe blanche et réconcilie Georges Sand avec la photographie, elle qui avait détesté le premier portrait que l'on avait fait d'elle. Mais la passion n'est plus la même. À quelques exceptions près, ce ne sont plus ces portraits artisanaux dans lesquels il captait l'intimité de son modèle. Ce sont des portraits réalisés à tour de bras. C'est la photographie à la chaîne que son ami Baudelaire condamne dans un pamphlet, fustigeant ce public moderne qui se rue comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur du métal. Cette photographie commerciale ennuie Nadar. Il délègue de plus en plus à ses assistants et fuit dès qu'il le peut son atelier. Félix l'espiègle veut expérimenter. Il s'en va sous terre et dans les airs. Il est le premier à photographier les catacombes et les égouts de Paris, grâce à une lumière électrique dont il dépose le brevet. Il est le premier ensuite à réaliser des clichés aériens de la capitale, embarqués dans un ballon plusieurs mètres au-dessus des boulevards. Nadar délaisse peu à peu les grands noms de son siècle en même temps qu'il commence à disparaître. Sur son panthéon d'artistes réalisé au début des années 1850, où il s'était lui-même caricaturé, il avait adressé un message plein de malice aux générations suivantes. Vous le faites, Mathieu ?
Moi, volontiers. Dédicace au monsieur que je regrette de ne pas connaître et qui, en l'an 3607, courra les enchères comme un chien perdu pour acheter à prix d'or cet exemplaire de mon panthéon devenu introuvable et dont il ne pourra se passer pour son grand travail sur les figures historiques du 19e siècle.
Nul doute que son panthéon de dessins et de photographies est un trésor pour les générations actuelles et celles de demain aussi.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Nadar, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui lui consacre une passionnante biographie qui nous a permis d'enrichir notre récit, il faut le dire. Stéphanie de Saint-Marc, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie de Saint-Marc. Vous avez en effet signé une biographie de Nadar par aux éditions Gallimard et dans laquelle vous regrettez que son itinéraire presque romanesque soit aujourd'hui inconnu ou méconnu. À travers ce livre, vous avez souhaité réhabiliter celui qui se cachait derrière l'objectif qui a capturé tant d'illustres personnages.
Oui, absolument. Écoutez, en effet, j'ai souhaité le faire connaître, parce qu'il est, comme vous le dites, assez largement méconnu. À vrai dire, en fait, j'ai voulu faire partager l'enthousiasme que Nadar avait pu susciter chez moi. Je ne suis pas une historienne de la photo. Et voilà, comme beaucoup de gens de ma génération, je le connaissais surtout par les petites vignettes de, voilà, du Larousse, des noms propres, ou par les Lagarde et Michard, qui n'étaient pas des représentations très, très flatteuses. Et c'est vrai que découvrir vraiment ces images, ça a bouleversé complètement ma vision de Nadar, et ça m'a donné envie, comme vous le dites, de le faire découvrir et de le réhabiliter, en tout cas le faire connaître et transmettre cette énergie qu'il dégage.
Et alors justement, parmi tous les clichés de personnalités du monde des lettres et des arts qu'il a réalisés, lesquels sont les plus réussis d'après vous, les plus emblématiques de son travail ?
Écoutez, c'est certain que les tout premiers, ceux de l'atelier de la rue Saint-Lazare, sont particulièrement attachants. Parce que pour lui, c'est le début de la photographie, c'est aussi le début de la photographie tout court. Donc disons qu'il y a une fraîcheur et il y a une authenticité qu'on trouve dans ses portraits qui est très très touchante et très fascinante, comme tous les débuts d'une technique. Alors bien sûr, par la suite, il y a des très très beaux portraits comme voilà, qui ont été cités déjà. Et il y a deux suites, je dirais, de photographies qui me semblent se dégager, notamment les photographies des égouts de Paris, qui sont magnifiques, même si le sujet ne laissait pas forcément attendre. Mais il y a une sorte d'abstraction. Enfin, ce sont c'est des canaux souterrains. Donc, c'est vrai qu'il y a des jeux de lumière qui sont assez fascinants. Et puis, moi, je suis très sensible aux photographies des petits prototypes d'hélicoptères faits par Nadar, des hélicoptères de Ponton d'Amécourt, qui sont tout à fait à l'origine de l'aviation.
Mais ce qui est formidable aussi, quand on voit les photographies de Nadar, c'est qu'il a photographié, on le disait, tous ceux qui portaient les arts et les lettres de la France. Et d'ailleurs, dans la maison, au dernier étage de la maison de Tante Léonie, à Illiers-Combray, il y a tous les personnages de proustiens qui ont été photographiés par Nadar, et c'est aussi magnifique. C'est tout le Paris de cette époque-là. Et qu'est-ce qui distingue, au fond, Stéphanie Saint-Marc, les clichés de Nadar de ceux des autres photographes de son temps ? Vous expliquez que dans les années 1850, ces méthodes prennent le contre-pied total des méthodes de ses concurrents. De quelle manière ?
Oui, alors le contre-pied total, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin oui, c'est vrai qu'il y a une singularité. Enfin, en tout cas, il y a cette recherche de vérité, cette recherche d'authenticité, puisqu'il y a une sorte de dépouillement. Voilà, on évoquait le portrait de Baudelaire. Voilà, il y a un dépouillement, il y a une attention qui est portée plus particulièrement vraiment au regard, au visage, un cadrage de trois quarts, et puis l'attitude, des jeux d'attitude qui sont savamment recherchés, le choix des vêtements. Donc évidemment, c'est différent de l'approche de Dysderic qui a été évoquée, où les portraits cartes de visite sont des portraits de tout petit format et qui sont vraiment faits à la chaîne, qu'on s'échange comme ça, comme un selfie aujourd'hui, je veux dire.
Oui, mais c'est ce qui a permis justement pour toutes ces comédiennes aussi de signer les premiers autographes.
Mais c'est un support publicitaire.
Publicitaire, ça, exactement.
Voilà, on change de dimension.
C'est à tous les sens du terme. Oui. On continue à parler de nos personnages qui ont shooté les plus grandes stars et de Nadar en particulier avec notre invité, sa biographe Stéphanie de Saint-Marc sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre. On y croit.
éteint la lumière. C'était Axel Bauer sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ont shooté les plus grandes stars. C'est le point commun de nos personnages cet après-midi dans Historiquement vôtre. Et on en parle avec notre invitée Stéphanie de Saint-Marc qui consacre une biographie passionnante à Nadar, un des pionniers de la photographie en France. Il a très vite perçu la photographie comme un art, on le disait, mais est-ce que c'était le cas de tout le monde au milieu du 19e siècle? Le portrait en photo valait-il la peinture ou c'était vu vraiment comme quelque chose de seconde zone?
C'est certain que la perception de la photographie comme un art a été vraiment progressive. Mmh. Alors, il y a eu des peintres ou qui se sont tournés vers la photographie. Il y a eu également beaucoup, beaucoup de réticences, énormément. On a évoqué celle de réticence de Baudelaire. Il y a quand même Ingres qui dit une chose assez amusante, qui dit... c'est très beau la photographie, mais il ne faut pas le dire. Donc c'est assez amusant. Et je dirais que l'attitude de Baudelaire n'est pas complètement éloignée, puisqu'il a beau s'insurger contre la photographie, peut-être à juste titre, mais en tout cas, il s'est beaucoup laissé photographier, et par Nadar, et par Carjat, et par d'autres. Donc ce sont quand même des sentiments aussi assez ambivalents. La photographie prend sa place petit à petit. Il y a une dimension qui est aussi une dimension technique. C'est aussi une invention technique. Et puis une dimension commerciale. On l'a évoqué avec Disdery. Donc la photographie acquiert peu à peu, je dirais, ses galons. Mais c'est certain
lent.
Que... Oui, c'est lent, bien sûr.
Et vous le suggériez tout à l'heure, c'est vrai qu'on connaît évidemment Nadar pour ses portraits de personnalités du 19e siècle, mais dans la biographie que vous lui consacrez, vous rappelez que pour ses contemporains, on ne pouvait pas le réduire à cette seule activité. En fait, Nadar, c'est un touche-à-tout, un curieux, attiré. D'ailleurs, c'est fabuleux parce que sur la couverture de Beaux-Arts, Art Faber, on voit son regard de Nadar âgé, et on voit cette curiosité qui l'anime toujours, ce regard comme ça. Il était attiré par la modernité. Vous expliquez qu'il se passionne pour la navigation aérienne, pour l'électricité, pour les avancées médicales. C'est une sorte de génie.
Oui, il est très emblématique du 19e siècle. Il a une curiosité absolument insatiable. Et donc il commence par la petite presse parce qu'il sent que c'est un milieu très mobile où il peut d'abord connaître beaucoup de monde. Il s'intéresse à la caricature, la photo. Et puis, en effet, vous venez de le dire, il s'ouvre à ce qu'on appelait alors la navigation aérienne, c'est-à-dire les premiers pas de l'aviation, en réalité. Il a déjà compris que le ballon n'avait pas d'avenir et qu'il fallait se diriger vers l'avion. C'est quelqu'un d'extrêmement mobile et puis politiquement il est républicain. C'est un progressiste, je dirais, un peu dans toutes les directions.
Alors Stéphane l'a raconté tout à l'heure dans le récit, Nadar s'est brouillé avec son frère Adrien Tournachon qui utilisait le même pseudonyme que lui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ça donne lieu à des confusions, des débats sur la paternité de certains clichés ?
Oui, les relations entre Adrien Tournachon, donc dit à cette époque-là Nadar jeune, et Félix Tournachon, donc Nadar, ont été extrêmement violentes, compliquées, faites de conflits. Et en effet, il y a eu toute une période pendant laquelle, en réalité, Adrien Tournachon avait créé son propre atelier, mais auquel collaborait un peu Nadar. Mmh. Et certaines photos sont attribuées à Adrien Tournachon, sont aujourd'hui clairement attribuées à Adrien Tournachon, mais ont pu par le passé être attribuées à Nadar parce qu'il y avait quand même cette collaboration, en tout cas cette proximité de fait entre les deux hommes.
Ce qu'on n'a pas encore raconté aujourd'hui, c'est qu'il y a un troisième Nadar.
Absolument.
Il y a Paul Tournachon, le fils de Félix. Quelle relation entretenait le père et le fils ? Aussi orageuse que les relations qu'il entretenait avec son frère ?
Tout aussi orageuse. D'ailleurs, on le connaît plutôt sous le nom de Paul Nadar. Enfin, c'est lui aussi, finalement, son... Ouais.
Son nom est devenu un patronyme,
Voilà. Mais d'ailleurs, Nadar s'appelait plutôt... Enfin, voilà, vraiment, s'appelait Nadar.
Il n'utilisait plus Tournachon.
Qui est un nom lyonnais, d'ailleurs, un peu.
Mais ils n'aimaient pas ce nom de Tournachon, c'est pour ça qu'ils...
C'est un beau nom, pourtant.
Mais oui, c'est joli, Tournachon.
non, mais bien sûr.
Il y a Bernachon pour les chocolats et Tournachon
pour la photo. Mais il a dû trouver que c'était peut-être un peu encombrant, je ne sais pas. Disons que Nadar, c'était peut-être plus... Ouais. Meilleur, plus facile à retenir et plus un moyen plus mnémotechnique. En tout cas, son fils, c'était Paul Nadar. Et les relations étaient tout aussi difficiles avec Paul, avec son fils, qu'avec Adrien, son frère, avec un mélange d'affection fusionnelle et de rejet, donc alternance de l'un et de l'autre. Et en effet, je crois que ça a été difficile et pour l'un et pour l'autre d'être aux côtés du grand Nadar.
Après, ce Félix avait l'air d'être un sacré caractère quand même. Dans votre livre, vous dépeignez un personnage fantasque, haut en couleur, et vous nous apprenez que Nadar a même inspiré un personnage de roman à son ami Jules Verne. Alors, il faut nous raconter ça.
Absolument, sous le nom de Michel Ardan, donc Ardan, acronyme de Nadar.
Ah oui.
Nadar était un ami de Jules Verne. Et Jules Verne était fasciné par la personnalité comme ça, très lumineuse et très exubérante de Nadar. Il y avait une espèce de chaleur de Nadar. Et puis, Nadar rencontrait tout le monde, même les gens qui n'étaient pas de son bord. Donc, il y a ça aussi qui est très sympathique chez lui, c'est que... Voilà, il photographie des mères supérieures de couvents alors qu'il n'est absolument pas religieux. Il est ami avec des royalistes, avec des aristocrates alors qu'il est républicain. Enfin voilà, tout ça, une espèce de grande fusion comme ça qui fait que oui, c'est un personnage qui est quand même très très attachant et on retrouve ça dans les traits du personnage de Jules Verne.
Comment se termine au fond la vie de Nadar ? Il a continué à photographier les personnalités de son temps jusqu'à la fin ?
Alors, il s'est un peu fait. Il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans, Nadar, donc c'est un homme âgé à la fin. Et puis sa femme est tombée malade. Mais oui, en tout cas, surtout à la fin de sa vie, il a été ruiné. À un moment, il y a eu des difficultés financières importantes dans l'atelier de la rue d'Anjou, qui a été ouvert après la commune. Et il a créé un dernier atelier à Marseille avec sa femme qui était handicapée, qu'il a tenue pendant quelques années. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça en fait un personnage quand même très, très émouvant.
Et très romanesque.
Combatif comme ça jusqu'à la fin.
Mais merci beaucoup Stéphanie de Saint-Marc. Je rappelle que votre biographie de Félix Tournachon, alias Nadar, est disponible aux éditions Gallimard. Et puis j'en profite pour parler aussi de ce numéro de Beaux-Arts à Farber, Nadar, inventeur, entrepreneur et photographe. Et puis je précise que votre premier roman, Une vie de rêve, vient de paraître aux éditions Mercure de France.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, si Stéphane se contente comme beaucoup de fumer le haschich, d'autres plus inventifs le mangent. C'est l'histoire étonnante que nous raconte aujourd'hui Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité de ce qu'on appelle les haschiches.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires souvent perchées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, plus perchée que jamais, vous nous racontez une drôle de secte, les haschichins. C'est des mangeurs de haschich.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ah non, mais c'est excellent. Parce que là, c'est vraiment perché à tous les sens du terme. Perché parce qu'on consomme du haschich et qu'en plus, c'est dans la montagne. Vous avez lu Alamout, les garçons ?
Alamout,
ce roman écrit par le Slovène Vladimir Bartol et publié en 1938.
Ça
ne vous dit rien. Oh, mais alors qu'ont fait vos parents ? Qu'est-ce que vous faisiez là ? Vous jouiez au basket toute la journée. Alors, c'est très
charades.
Intéressant, Alamout, mais c'est comme les bouquins d'Amin Malouf, Samarcande, Le périple de Baldassar. Vous êtes emporté dans des contrées lointaines, tout ça d'un exotisme fou. Bon, ça, en tout cas, Alamout, ça se base sur des faits historiques. Les faits historiques, c'est au XIe siècle. Conflit religieux entre chiites et sunnites. Bon, la grande question, en gros, c'est de savoir qui descend de Mahomet, qui est le descendant le plus légitime. C'est ça l'opposition de départ. Et cette forteresse d'Alamout se trouve au nord de l'Iran. C'est le bastion des Hachichines. Les Hachichines sont des musulmans chiites, ismaéliens, nizarites. On pense que ce mot Hachichine aurait donné le mot assassin en français. Je m'empresse de signaler que cette explication-là est très controversée. Toujours est-il que ces soldats assassins sont sous les ordres de celui que l'on surnomme le vieux de la montagne, un certain Hassan ibn Sabah, et il les forme à l'assassinat politique. Voilà, tout ça, ça c'est vrai. Ce qui n'a jamais été prouvé, c'est est-ce que oui ou non on aurait utilisé de la drogue pour ces soldats, là, ces fédaïnes, ces combattants, qu'on enverrait ensuite complètement dépendants, drogués, assassinés.
Ça ramollit le haschich, c'est pas une drogue qui vous booste.
Alors oui,
après,
mais justement, mais si vous voulez, la dépendance, elle s'explique et elle est intéressante pour une autre raison. Dans le livre dont je vous parle, à Alamout, l'action se passe donc essentiellement là-bas, dans cette forteresse, en 1092. Et on suit l'histoire d'une nouvelle recrue. Alors, il nous raconte son entraînement. C'est un entraînement d'une dureté, d'une sévérité inouïe. On les affame, ses camarades et lui, on les assoiffe. Ils sont éduqués dans la fascination de la mort et du dévouement. Et puis, une nuit, on les drogue. On leur fait prendre du haschich. Ils s'endorment. Et là, tout d'un coup, ils se réveillent. Et où sont-ils ? Dans une partie de la forteresse d'Alamout qui leur est totalement inconnue. Et là, ces gars-là, alors qu'ils sont complètement exténués, ils s'entraînent au combat depuis des mois, ils prient, ils étudient la nuit, ils dorment très peu, ils ne mangent pas à leur faim. Ils ont été drogués, ils se réveillent tout à coup dans un jardin féerique, au milieu des fontaines et surtout au milieu de ravissantes femmes qui s'empressent de faire le nécessaire pour leur être agréables. Ah. Alors évidemment, ils sont persuadés de se trouver au paradis et d'avoir affaire aux houris. Les houris sont ces jeunes femmes magnifiques, ces vierges qui sont promises au paradis à tout bon musulman ayant accompli le djihad, la guerre sainte. Dès lors, bien sûr, on se met à leur place, les pauvres gars, et n'ont qu'une envie, c'est de retrouver au plus vite dans ce lieu paradisiaque. Donc ces hommes qui sont complètement endoctrinés et fanatiques, ils obéissent au doigt et à l'œil au vieux de la montagne. Et quand le vieux de la montagne veut bluffer ses visiteurs, il désigne un gars là dans ses soldats, il dit « Vas-y, toi, monte en haut de la muraille, allez, jette-toi dans le vide. » Il le fait immédiatement, convaincu qu'il va retrouver
sous l'emprise.
Dans l'histoire, la question c'est s'il y a vraiment eu consommation d'hashish à Alamout, est-ce qu'il le consommait pour qu'il soit accro et qu'ils en aient besoin et qu'ils dépendent de cette drogue, ou alors strictement pour se livrer à cette espèce de parodie d'arriver au paradis où les gars ayant expérimenté ça grâce au hashish, et ben n'avaient plus qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc le vieux de la montagne, il va envoyer ses sbires commettre quelques assassinats, il fait éliminer le grand vizir de l'empire seldjoukine, Nizam al-Mouk, ils seront éliminés également au cours des années un calife, des croisés de haut rang, et même on a essayé d'éliminer le grand Saladin, ça n'a pas marché. Son décide qui sont peu nombreuses, parce qu'ils ne sont pas très nombreux ces assassins, mais toujours très importantes. Et d'ailleurs, même comme on ne prête qu'aux riches, bientôt, à chaque fois qu'il y a un assassinat politique quelque part, on se dit, ça y est, c'est les assassins. Alors, usage de drogue, vrai ou faux, ça c'est Marco Polo, dans le Livre des Merveilles, qui a raconté que les assassins étaient tous drogués et dépendants. Quoi qu'on n'en ait jamais trouvé la preuve, mais cette légende a la vie dure, et c'est comme ça qu'elle a été reprise par des romanciers au XXe siècle, à commencer par Vladimir Bartol. En fait, ce qui est l'ironie du sort, c'est que quand l'auteur slovène a écrit ce livre, c'était pour dénoncer les despotes tels qu'Hitler et Mussolini, je rappelle ainsi que je l'ai dit que ça a été publié en 1938, qui manipulaient leur peuple et les envoyaient se sacrifier sur les champs de bataille. Plus récemment, en 2000, cette histoire du vieux de la montagne a été reprise par Ubisoft dans son jeu le plus connu, Assassin's Creed, directement inspiré d'Alamout de Vladimir Bartol, même si la forteresse ne porte pas le même nom. Enfin, notons que la secte, les ismaéliens, existe encore de nos jours.
C'est l'Agacan,
il ne fait pas assassiner ses ennemis, non. Mais au contraire, c'est l'un des plus grands philanthropes au monde. Comme merci. Vous aussi, Stéphane, voyez, il est inutile de consommer du hashish.
Il est le deuxième plus grand philanthrope derrière Stéphane.
Il faut dire que son Altesse l'Agacan a des moyens que je n'ai pas. Merci beaucoup, Clémentine.
Et vous restez avec nous dans un instant, le quiz.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Et juste avant, c'est Marc Lavoine.
Je roule avec un cœur d'occasion, mais il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion lorsqu'il se pose sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion, quelques kilomètres au compteur. L'autre est à la casse des illusions, il est allé se faire ailleurs. J'ai trouvé un cœur d'occasion, sans pare-brise ni rétroviseur, sans ceinture anti-collision, j'ai même pas choisi la couleur. Mais il marche encore, il bat même de plus en plus fort. Quand tu t'éveilles, quand tu t'endors, lorsqu'il se pose sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion, mais il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion lorsqu'il se pose sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous savez, quand on les écoute parler hors antenne, c'est comme si on était projeté en 1953, avant la libération des mœurs.
Est-ce que tu penses que Guillaume II était homo ?
Il a été bizarre, oui.
Bizarre, oui. Revenons, si vous le voulez bien, en 2022, les amis, pour jouer à Burn to be Alive. Première question, elle est pour vous, Stéphane. Je ne sais pas si vous êtes féru d'Astérix, mais si vous connaissez bien Astérix, vous devez pouvoir répondre à cette question. Au IIIe siècle, les Goths se scindent Il y aura désormais les Ostrogoths et les Visigoths.
Et les Saligoths. Oh pardon.
C'est un quiz sérieux, c'est un quiz d'histoire.
Oh, ça c'est une perle des perles d'histoire.
Ah oui, ça c'est des élèves qui l'ont écrit vraiment.
Ouais.
Il y aura désormais des Ostrogoths et des Visigoths. Quel roi Ostrogoth a véritablement existé? Ostrogotha, Ostrogotho ou Ostrogothon? Mais c'est sérieux, je ne mentais pas. Il y en a un des trois qui a existé.
J'élimine Ostrogotha. C'est Gotha.
Gotha, c'est quoi?
Ostrogo, le premier.
Alors, le premier, c'est Ostrogotha, Ostrogotho ou Ostrogothon?
Alors,
Ostrogothon, et non pas Ostrogothon, comme je l'ai dit.
Alors, il faut savoir que l'un des prénoms les plus connus à l'époque mérovingienne, par exemple, c'est Othon. C'est ce qui a donné Otto en Allemagne.
Ça aurait du sens.
Mais ça aurait du sens.
Ça aurait beaucoup de sens.
Ostrogothon. Othon.
Vous avez perdu.
Ah, on dit la même chose.
Je dirais même que vous avez lamentablement perdu, puisque la seule réponse que vous avez évacuée d'entrée était la bonne. Ostrogotha, Stéphane.
Ah oui, parce que ça fait bizarre.
Mais oui, mais ça vous fait bizarre. Vous pensez au Gotha, mais nous on s'en fout. Ostrogotha, c'était le fils de Izarna, que je ne connaissais pas non plus. Vous voilà édifié. Question numéro 2.
Ah non, mais ça va, vous ne manquez pas un non plus. Mais... vous n'auriez pas fait mieux,
attendez,
hein, madame.
Attendez,
ah non, j'aurais répondu pareil que vous, Stéphane.
Attendez votre question. Ah. 1883, Clémentine.
Oui.
Notre ami Friedrich Nietzsche fait paraître Ainsi parlait Zarathoustra. 1896, Strauss s'en inspire pour composer un poème symphonique du même nom. Zarathoustra, le vrai, serait né au nord de l'Iran 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça a donné une religion, le zoroastrisme. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des zoroastriens et des zoroastriennes? La question étant trop facile, je vous demande combien il en reste. Combien reste-t-il de pratiquants de cette religion?
Eh ben, je pense qu'il en reste peut-être quelques centaines de mille.
À 200 000 près.
800 000.
Vous avez perdu.
Quel dommage, ils étaient 200 000 habitants, majoritairement l'Inde, l'Iran et le Kurdistan. Ils embrassent tous s'ils écoutent Europe 1 grâce à Europe 1.
Bah dis donc, c'est pas juste. Hein.
C'est très injuste.
Ils sont plutôt poursuivis et maltraités
ils sont
en Iran.
Ils ont peut-être autre chose à faire en Iran qu'écouter Europe 1.fr.
200 000, il en reste, d'accord.
Me tuez pas, j'écoute Europe 1. J'écoute Stéphane Bern. Question numéro 3, Stéphane, elle est pour vous. Dans la Rome antique, quand on se baladait, on pouvait croiser beaucoup de voûtes, mais aussi des arches. Pour les désigner en latin, on disait « fornix ». Et sous ces voûtes, il y avait parfois des prostituées. Les ponts où l'on pouvait les trouver étaient appelés les « fornicatrix ». Ça a donné le verbe « forniquer ». Vrai ou faux?
Fornication. Non, fornication, ça ne vient pas de là.
Ne me regardez pas comme ça,
non,
Stéphane.
Non.
Moi, je le sais,
vous
mais comme j'ai... Comme
non, vous ne pouvez rien dire. Attendez, ouais,
parce que j'ai un point de retard, là.
Oui,
j'ai un point de retard alors que j'ai donné la bonne réponse. Hein, je voudrais quand même signaler.
Oui, mais c'était une question trop facile, Clémentine,
bah,
vous êtes
ça, d'accord. C'est pas de ma faute si vous posez des questions trop faciles.
Fornicatrix, est-ce que c'était des ponts où on trouvait ces prostituées, étaient appelées fornicatrix, qui a donné le verbe fornicatrix.
Écoutez, ça serait génial, c'était le cas, donc je vais dire oui.
Vous avez...
Et c'est une bonne réponse, Stéphane.
C'est
et forniquer vient du latin fornicatio et qui a la même racine que fornix. Question.
C'est comme fuck après en anglais.
Oui, Stéphane, mais c'est pas. Mais l'idée de ce quiz, c'est pas de sombrer dans la vulgarité. C'est vraiment de rester toujours.
L'autorisation du roi.
L'autorisation du roi.
Quoi? Vous n'étiez pas au courant. Vous connaissez ça.
Qu'est-ce que c'est que cette idée?
On dit que les fuck, ça vient de fornication. Under King's...
Mais d'où tirez-vous cette histoire? C'est vrai que le mot fuck, on ne sait pas d'où il vient. Enfin, je n'ai jamais réfléchi.
Ça viendrait de là. C'est une légende urbaine qu'on vous explique en Angleterre quand vous étiez étudiant.
Mais c'est néanmoins très intéressant, Stéphane. Et on enquêtera et j'aimerais bien qu'une question du quiz rebondisse sur cette origine qui nous a été dévoilée par Stéphane. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Henri Gauthier-Villard était un journaliste et romancier français. Il est mort en 1931, il a été le mari de Colette. On lui doit cette jolie citation « Quand les filles ont les yeux cernés, c'est que la place est prise. » Avoir des cernes, c'est normal de le mettre au pluriel, car généralement, on a deux yeux. Mais sinon, on dit un cerne ou une cerne?
Je crois que c'est un cerne. Je crois qu'on a, un mauvais titre, tendance à le mettre au féminin, mais je crois que c'est masculin.
C'est masculin.
Vous avez...
Vous avez gagné un CERN. C'est une réponse que j'apprécie puisque cette égalité entre vous, on dit aussi en médecine un sillon jugo-palpébral, mais c'est quand même beaucoup plus long. Question numéro 5, c'est la question qui va vous départager. Notre actuelle constitution française date de 1958. Son article 2 le dit clairement, la langue de la République est le français. Depuis le 23 juillet 2008, les langues régionales appartiennent officiellement au patrimoine du pays. Oui. Avantage donc pour cette question à Monsieur Patrimoine. Mais voici quand même la question. Quelle est la langue régionale la plus utilisée? Il va y avoir trois propositions, il va vraiment falloir être rapide. Le breton, le créole ou l'occitan?
Créole. Le créole, l'occitan.
C'est Clémentine qui l'emporte, surtout que Stéphane ensuite
non, je croyais que c'était
une mauvaise réponse.
Non, parce que je croyais que c'était faux.
Non, non, pas du tout, j'ai essayé de voir qui avait répondu le plus vite,
et c'est créole. Oui.
C'est Clémentine qui l'emporte, c'est le créole avec 1 450 000 locuteurs, puis le breton avec seulement 900 000 personnes, et l'occitan, Stéphane, c'est 600 000 personnes. Et sinon, 2 millions de personnes en France parlent également une langue non territoriale, le berbère.
Et oui.
Alors, dans son roman, Bernard Werber.
Alors, on est parti sur le fuck, là, oui, c'est
oui.
Ça, oui.
Cite ouais, justement cet acronyme fuck, évidemment, qui viendrait d'une loi en Angleterre au XVe siècle. Une loi imposait la réglementation des naissances et les gens voulant avoir un enfant allaient prendre un papier spécial sur lequel était écrit Fornication under the consent of the king. Fornication sous le consentement du roi et l'afficher sur leur porte. F-U-C-K, ça donnait fuck. Mais d'après The American Heritage Dictionary, eh bien, le verbe fuck date de 1535 dans un poème intitulé Flenflies. Enfin, voilà. Ils ne sont pas au paradis parce qu'ils baisent les femmes de Élie. Élie étant un lieu et non une personne.
Ah oui.
Le mot est d'origine germanique et partage les racines du mot allemand ficken. Qui nous en dit pas plus.
Ah, c'est voilà. Passionnant l'étymologie.
Oui, Stéphane, mais voilà. La régie m'informe de quelque chose d'important. Oui. C'est vous qui remportez le quiz grâce à cette explication sortie de
nulle part.
Non, mais dis
donc, pas sortie de nulle part, sortie d'internet
fuck.
Sur son téléphone.
Mais non, il le savait.
Non, mais dis donc,
il a précisé sa pensée.
Dit et j'ai été vérifié.
C'est vrai.
Bravo, Stéphane.
Non, mais dis donc, ça pourrait être égalité.
Non. Égalité, moi je donne l'égalité.
On vous donne, parce qu'en plus, il est magnanime. C'est magnifique. Égalité dans le quiz aujourd'hui.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, les amis, saisir la beauté d'une œillade furtive. D'une moue boudeuse. Oui, Stéphane, c'est bon, oui, plus bas la fesse gauche, comme ça, oui. Provoque l'objectif, révèle ta bestialité.
Oh, Tarzan.
Oh, magnifique. Et c'est le point commun de nos personnages du jour, Stéphane.
Oui, ils ont shooté les plus grandes stars, parfois au sens figuré, parfois au sens propre aussi.
Oui.
Puisqu'après vous avoir parlé de Cosette Harcourt, celle dont le studio et les photos restent parmi les plus célèbres au monde, Mathieu, vous nous brosserez le portrait d'un monsieur qui a vraiment shooté une star.
Oui, il s'appelle Mark Chapman et c'est lui qui a tué John Lennon. Pourquoi? Comment? Et peut-être même si vous êtes sage, le pourquoi du comment, je vous dirai.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Cet après-midi dans Historiquement vôtre, ils ont shooté les plus grandes stars.
Oui, après Nadar, qui a immortalisé les grandes figures des lettres et des arts de son temps, je vous raconte celle qui a tiré le portrait de toutes les stars de son temps, en noir et blanc évidemment, Cosette Harcourt.
Mais tout de suite.
Il est 17h sur Europe 1.
Les infos avec vous, Guillaume Buan.
Bonjour à tous. 13 départements en vigilance orange pour des risques d'orages violents. Se sont rajoutés aux précédents la région lyonnaise et le Pas-de-Calais. Les départements de la côte méditerranéenne et du littoral normand restent concernés. Prudence avec de forts cumuls de pluie attendus dans l'après-midi. Et ce soir, entre 80 et 130 mm de précipitations prévues. Certaines communes du sud-est craignent également des inondations. La météo, c'est dans une heure. Gérald Darmanin sur tous les fronts cet été. Le ministre de l'Intérieur était en déplacement dans le Jura. Département touché par des incendies qui ont ravagé plus de 1000 hectares de forêt en une semaine. Il a rencontré les pompiers mobilisés contre ces feux qui, au passage, ont été fixés. Néanmoins, la vigilance reste de mise et la zone est toujours sous surveillance. Durant cette visite, le ministre a annoncé la mobilisation de 500 gendarmes et policiers pour retrouver les pyromanes. 26 interpellations ont été menées par les forces de l'ordre et plus de 20 enquêtes sont en cours, dont 9 ouvertes à Rennes, 6 à Bordeaux, 2 à Pau et 2 à Toulouse. À ce stade, les causes des 10 autres incendies restent indéterminées. Enfin, 5 personnes sont mises en examen pour incendie volontaire. Depuis aujourd'hui, comme le souhaitait le ministre de l'Intérieur, chaque des commissariats mènera au moins 3 opérations anti-rodéo par jour. En une semaine, il y a déjà eu 2900 opérations menées, dont 338 interpellations et 157 saisies, selon les données publiées par Gérald Darmanin. Un mot donc de ces rodéos urbains avec hier soir un jeune de 19 ans qui s'est tué à moto alors qu'il réalisait une roue arrière. Il a perdu le contrôle de l'engin et a heurté un poteau. Malgré le casque, ce jeune est décédé sur place. Dans les colonnes du Parisien, Brigitte Autran, toute nouvelle présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui a remplacé le conseil scientifique, affirme que l'épidémie de Covid n'est pas derrière nous. Si les chiffres sont très bas ces derniers jours, le virus devrait circuler plus fortement dans la population, prévient-elle, tout en poursuivant aujourd'hui. Il faut aller vers le vivre avec, la présidente qui évoque une reprise du Covid en automne. Le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia dans l'actualité par l'armée russe constitue une grave menace pour la sécurité. Le secrétaire général de l'OTAN juge urgent qu'une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique ait lieu. Il demande également le retrait de toutes les forces russes du site. Les tensions entre Israël et la Turquie s'apaisent. Les deux pays rétablissent totalement leurs relations diplomatiques. De ce fait, les deux ambassadeurs et consuls seront renvoyés prochainement. À Ankara, le ministre des Affaires étrangères turc précise toutefois que la Turquie n'abandonnera pas la cause palestinienne. Au Maroc, à présent, 15 personnes tuées, 37 autres blessées dans un accident d'autocar. C'est à l'est de Casablanca. Le véhicule s'est renversé dans un virage. En sport, 2 informations à retenir. Tout d'abord, en cyclisme, Nairo Quintana a disqualifié du Tour de France 2022. Le coureur a été contrôlé positif à 2 reprises sur la dernière grande boucle. Des traces de tramadol, un puissant antidouleur interdit en course, a été retrouvé. Le Colombien a 10 jours pour faire appel de cette décision. Et en tennis, c'est Gaël Monfils qui ne participera pas à l'US Open, qui doit débuter dans une dizaine de jours à New York. Le numéro 1 français ne s'est toujours pas remis de sa blessure au pied. 17h04, historiquement vôtre. Continue Mathieu Noël, Stéphane Bern.
Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vaud, de l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'un garçon qui tente à rougir quand on le complimente. C'est pourquoi je n'en dirai pas plus sur vous, Mathieu, sinon que vous êtes un formidable journaliste.
Bon, votre pudeur vous honore, Stéphane, mais vous savez, ça ne me gêne pas du tout quand vous entrez dans le détail.
Le plus bel homme de sa génération, le mieux fait.
C'est ce qui se dit, effectivement, mais passons. Si nous sommes réunis cet après-midi, c'est pour évoquer 3 personnages très différents. Ils ne vivaient pas à la même époque, et pourtant, ils avaient un point commun, celui de shooter les plus grandes stars.
Oui, Mathieu, après Nadar, qui a immortalisé les grandes figures des lettres et des arts, je raconte le destin de celle qui a laissé son nom au plus célèbre studio photo du monde, où se sont pressées les plus grandes stars de son temps, Cosette Harcourt.
De Cosette, on passera ensuite plutôt à Thénardier, puisque mon personnage aujourd'hui a lui aussi shooté une star, mais pour de bon. Mark Chapman, son nom ne vous dit rien et tant mieux. Le nom de celui qui l'a assassiné en revanche devrait vous parler, un certain John Lennon qui venait pourtant de lui signer un autographe quelques heures plus tôt, comme quoi certains fans ne sont jamais contents.
Sans oublier nos chroniqueurs qui eux sont toujours contents, regardez, et prêts à signer des autographes aussi.
Comment
à qui leur demande.
Stéphane
David Castel-Lopez nous raconte les origines d'une appli qui, évidemment, sert beaucoup à l'heure actuelle.
Sert beaucoup, elle a vraiment un peu révolutionné tout et en étant, maintenant tout le monde, beaucoup de gens la détestent. C'est Uber, l'application Uber.
Et puis avec Olivier Pouls, eh bien, on remontera aux origines d'un plat un peu exotique.
Est-ce qu'il vous arrive d'aller manger indien ou de commander indien? Vous avez cette
oui, cuisine.
Et est-ce que vous aviez pris des cheese naan dans votre menu?
Oui, tout le temps, il y a toujours un cheese naan dans mon menu.
Non, moi, depuis que je sais que c'est fait avec du vache-kiri.
Mais vous saurez, alors je vous donnerai une recette sans vache-kiri si vous le voulez, mais je vous expliquerai surtout la très étrange histoire du cheese naan.
Il ne vient pas d'Inde, le cheese naan?
Ah non.
Il vient du Pakistan?
Non, pas du tout.
Arrêtez d'essayer de deviner.
C'est plus fort que nous, c'est la curiosité. C'est comme ça qu'on
est
fait.
Vous allez vraiment être surpris.
Ah oui.
Enfin, les amis. I need somebody help. C'est probablement ce que s'écriront Pouls et Castello quand ils devront m'affronter dans la lutte finale. Ce quiz redoutable dans lequel chaque jour, vers 6h moins le quart, ma culture générale les éblouit. Oui, j'avais écrit ce lancement il y a longtemps.
Parce que ça fait combien de temps que vous n'avez pas gagné?
Ça fait au moins 12 semaines que je n'ai pas gagné une fois. Mais pour l'heure, partons à la rencontre de notre deuxième personnage qui shootait les plus grandes stars. Stéphane Bern nous raconte la photographe Cosette Harcourt.
Europe 1. 16h, 18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Plongeons dans l'univers haut en couleur et la chambre noire d'une photographe jamais à court d'idées. Ses photos, en noir et blanc, elle les signe d'un H qui veut dire Harcourt. Stéphane Bern nous raconte celle qui a figé les plus grandes stars sur papier glacé et laissé son nom au studio célèbre dans le monde entier, Cosette Harcourt.
Nous sommes à l'aube des années 1950, au 49 de l'avenue d'Iéna, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. À cette adresse, un immense hôtel particulier abrite les studios de photographie les plus réputés de la ville, les studios Harcourt. Chaque jour, des stars du cinéma et du monde de la culture s'y pressent pour qu'un photographe de prestige immortalise leurs reflets. Et chaque jour, le cérémonial est identique. Une femme distinguée descend l'escalier monumental en marbre pour accueillir ses riches clients. Sur les murs, autour d'elle, des dizaines de portraits en noir et blanc, marqués d'un grand H, jettent des regards illustres. La maîtresse des lieux est suivie par un petit coquet roux. Elle porte un tailleur en jersey et des chaussures assorties. Enveloppée par les volutes de son éternelle cigarette, elle tend une main gantée. Elle, c'est Cosette Harcourt, la directrice et l'âme des studios qui porte son nom. Cosette Harcourt intrigue tous ceux qui la rencontrent. A-t-elle un lien avec l'illustre maison d'Harcourt, l'une des plus vieilles familles de l'aristocratie française? Ou d'où lui vient cet accent so British? Quant à ses mœurs, la rumeur a longtemps couru qu'elle préférait les femmes. On murmurait qu'elle fréquentait le Monocle, un cabaret lesbien du quartier de Montmartre. Les réponses, elle ne les dévoile jamais. Cosette Harcourt aime entretenir le mystère. Elle veut construire sa légende. Quand on l'interroge, elle esquive, tire sur son interminable porte-cigarette et souffle au visage des curieux pour les enfumer, aux deux sens du terme. Mais qui se cache vraiment derrière ce personnage de composition? Quel passé Cosette Harcourt s'efforce-t-elle de dissimuler? Pour le savoir, il faut remonter en 1900, l'année de naissance de la directrice des studios Harcourt. Cette année-là, au cœur de l'hiver, Sophie et Percy Victor Hirschfeld, un couple d'Allemands émigrés à Paris, accueillent Germaine, leur premier enfant. La petite grandit dans le 9e arrondissement, entre l'école, l'appartement familial et le commerce prospère de ses parents. Mais en 1914, quand l'Europe s'embrase, les Hirschfeld sont bientôt contraints de fuir la France. Depuis la déclaration de guerre, les immigrés allemands sont mal vus par la population française, galvanisée par une forte propagande nationaliste. La clientèle du couple se raréfie jusqu'à déserter complètement la boutique. Rejetés par leur patrie d'adoption, les époux Hirschfeld plient bagages et traversent la Manche pour se réfugier en Angleterre avec leur petite Germaine. Une décennie plus tard, ce n'est plus une enfant qui foule à nouveau les pavés parisiens. Germaine a près de 30 ans, un regard perçant, les cheveux blonds coupés courts et l'allure typique de la garçonne des années 20. À la fin de ce qu'on pensait être la Derdéder, elle a choisi la nationalité britannique et rayé son ancienne identité. Elle n'est plus Germaine Hirschfeld, cette fille d'immigrés juifs allemands humiliés par leur pays d'accueil. Non, cette fille-là n'existe plus. Désormais, elle est Cosette Harcourt, héroïne libre et fière du roman de sa vie. Si Cosette Harcourt en vient à la photo, c'est, dira-t-elle plus tard, parce qu'elle aime les artistes. Les vedettes, elle les talonne pour leur demander des autographes avant de les côtoyer de près sur les plateaux de cinéma où elle est un temps maquilleuse. Mais Cosette en veut plus, beaucoup plus. C'est une femme ambitieuse. La voilà embauchée au studio GL Manuel Frère dans l'ouest parisien. À la nuit tombée, quand la fête bat son plein dans les cabarets de la ville, Mademoiselle Harcourt se transforme en reporter mondain. Au bœuf sur le toit, elle se faufile entre les tables pour photographier la crème des artistes qui s'enivrent à coups de coupe de champagne sur des airs de jazz. Un cliché de Peggy Guggenheim en perlousé, un autre de Jean Cocteau, un verre à la main. Cosette se perfectionne, saisit chaque geste. Elle maîtrise la prise de vue, le cadrage, l'exposition, mais aussi l'art des retouches. À mesure qu'elle acquiert des connaissances, elle se surprend à rêver. Et si, elle aussi, elle dirigeait son propre studio? Un studio qui porterait son nom, dont le symbole serait sa signature, avec un grand H, le H de Harcourt. Mais aussi, elle seule le saurait, le H de Hirschfeld. L'année de ses 34 ans, le hasard d'une rencontre lui offre cette occasion rêvée. La rencontre avec un homme tout aussi ambitieux, un certain Jacques Lacroix. Avec Jean, son frère cadet, il s'est lancé au début des années 20 dans l'édition de presse. Pour habiller les pages de leurs nombreuses revues de réclames en tout genre, les deux patrons possèdent également un studio de photographie publicitaire. Mais lorsque Jacques fait la connaissance de Cosette, si charmante, si mystérieuse, si libre, c'est une nouvelle idée qui lui vient. Il lui offre la direction d'un studio de photographie d'art, son nom, Harcourt. En 1934, dès les premiers mois d'ouverture, le studio attire intellectuels, comédiens et artistes en tout genre, tous désireux d'obtenir leur portrait. Ce sont d'abord de petites vedettes, des seconds rôles peu connus. Mais Mademoiselle Harcourt ne tarde pas à accueillir les célébrités en vogue. Tour à tour, la chanteuse Miss Tinguette, le poète Paul Éluard, le romancier Tristan Bernard, la môme Édith Piaf, l'artiste Salvador Dali, le dramaturge Paul Claudel, l'actrice Marlène Dietrich et tant d'autres, des centaines d'autres même prennent la pose. Si Cosette n'est plus derrière l'objectif, elle régente son univers, du portier aux maquilleuses, et forge tout de suite sa marque, des portraits en noir et blanc, au clair-obscur prononcé, qui immortalise le visage des personnalités du cinéma et de la culture. Mais trop vite, le bruit des bottes résonne dans les rues parisiennes. En 1940, alors que la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich, défile sur les Champs-Élysées et que le gouvernement de Vichy promulgue une loi sur le statut des Juifs en France, l'ascension de Cosette est stoppée net. Elle ne peut plus nier ses origines. Hirschfeld, ce nom ashkénaze et que ses parents lui ont donné, qui figure sur les registres, l'a trahi aux yeux de l'occupant. Cosette a donc l'ennemi aux trousses. Pour la seconde fois, elle doit fuir la France et se résoudre à confier les clés du studio à son adjoint. Fort heureusement, à l'issue de la guerre, la directrice reprend les rênes de la maison Harcourt dans son palais de l'avenue d'Iéna. Jusqu'aux années 1970, qui la voit disparaître, Cosette Harcourt construit un peu plus la légende de ses studios, attirant autant les stars qu'une clientèle bourgeoise anonyme, avec toujours la même promesse, celle de leur offrir la photo qui les rendra éternellement beaux et figera leur image dans l'histoire avec un grand H.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, Cosette Harcourt, hein, sous son objectif, il y a eu les plus grands, mais il y a surtout Stéphane Bern. Pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr, Stéphane Bern accompagné de ses chiens, les fameux teckels à poils
durs.
À poils durs, c'est important de le signaler.
Virgule et Dash.
Et Dash, oui, dont on salue la mémoire.
Le seul survivant sur cette photo.
Et pour continuer à parler de Cosette Harcourt, nous sommes avec celui qui a raconté sa vie dans un livre, Stéphane. Bonjour Guillaume Évin.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Évin. Le temps de ranger mon appareil photo et on parle avec vous dans un instant.
Sunset Lover, c'était Petit Biscuit, le surnom de Stéphane Bern sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, et nos personnages qui ont shooté les plus grandes stars continuent. On parle de Cosette Harcourt avec notre invité Stéphane, le journaliste Guillaume Évin.
Oui, Guillaume Évin, vous connaissez bien Germaine Hirschfeld alias Cosette Harcourt puisque vous lui avez consacré un ouvrage, Cosette Harcourt, un studio de légende, paru aux éditions Hugo Doc. D'après vous, pourquoi a-t-elle choisi d'apparaître sous ce nouveau nom digne d'un personnage de roman ?
C'était une trouvaille de génie. En fait, Cosette Harcourt, c'est quoi ? C'est d'un côté, on a Cosette, Hugo, les Misérables, enfance assez malheureuse, mais en même temps, le roman national, et de l'autre côté, Harcourt, donc un nom noble qui rappelle Azincourt, et finalement, c'est la France de toujours. Donc en fait, cette adjonction des deux termes a priori antinomiques fait tout. Et donc, elle a été très maligne. Cosette Harcourt, c'est une signature.
Alors, Stéphane le disait, Cosette Harcourt a construit une légende autour de sa personne. Finalement, sa biographie, c'est elle qui l'a savamment construite. Est-ce que Il y a certaines zones d'ombre qui subsistent même pour vous. Il y avait bien.
Oui, oui, bien sûr. J'ai eu du mal parce que bon, d'abord peu de survivants et puis donc des témoignages éclatés. On a peu de choses donc sur la période qu'elle a vécue avec ses parents en Angleterre lorsqu'elle a fui la France en 1914 juste avant, lorsqu'elle revient au milieu des années 20. On ne sait pas tout également de la fin de sa vie dans les années 70. Il y a encore des zones comme ça mystérieuses parce qu'en fait, elle entretenait ce flou artistique pour le coup. Elle aimait en fait s'effacer derrière justement la force de la griffe qu'elle avait montée. Parce que Harcourt, c'était ça. En fait, c'était presque une griffe haute couture de la photo. C'était le Chanel ou le Dior sur pellicule.
Ce que je trouve étonnant, c'est que vous citez Dior, vous citez des marques de... comme ça, de luxe, et il y a des concurrents. On a l'impression qu'Harcourt, il n'y a pas de concurrents sur ce créneau-là, de la photo de luxe, comme vous dites. Il y avait des concurrents à l'époque, il y avait des différents
studios.
Alors,
bien sûr, puisque vous avez parlé de Nadar avant, elle n'a pas inventé le portrait photographique. Mais elle, Cosette, elle a réussi ce que les autres n'ont pas fait, c'est à savoir qu'elle a donc repris les codes d'Hollywood et elle a appliqué la retouche qui se pratiquait déjà. Ainsi que des recettes commerciales.
Mais
c'est
l'époque où, en Angleterre, on a du Cecil Beaton, on a tous les grands photographes anglais avec ce jeu de clair-obscur. Au fond, elle n'a pas inventé grand-chose.
C'est vrai, elle n'a pas inventé la technique. Mais par contre, ce clair-obscur, après, elle l'a magnifié. C'est-à-dire que la phrase vraiment importante chez Harcourt, c'était « sculpter la lumière ». Et elle a quand même un sens marketing très très fort, puisqu'elle va populariser dans les années 40 ce qu'on appelait le portrait sans condition d'achat. C'est-à-dire qu'on vous appâte, on vous fait venir, on vous tire le portrait gratuitement. Et évidemment, lorsque vous venez chercher le magnifique cliché dans son écrin, qui peut résister à la tentation de se voir toujours beau sur sa cheminée? Et en fait, finalement, Harcourt a eu la riche idée, finalement, d'attirer les stars, mais pour vivre de la manne des anonymes. Et donc, la notoriété des uns, finalement, est gonflée le chiffre d'affaires fourni par les autres.
Parce que c'est ouvert à tout le monde. Ils ont même fait depuis lors, vous savez, des ateliers photo portatifs où vous pouvez vous faire tirer le portrait en photomaton. Photomaton Harcourt, c'est très malin.
Ils ont passé un partenariat avec Photomaton.
C'est génial.
À l'époque, c'était, je crois, 10 euros. Donc, vous aviez votre photomaton, mais ciblé Harcourt. Un petit peu plus classe.
Et ce qui est terrible dans son destin, c'est que donc, elle est une première fois contrainte à l'exil pendant la Première Guerre mondiale. Et quand arrive la Deuxième Guerre mondiale, elle est à nouveau contrainte à l'exil. Et pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, les studios Harcourt continuent de tourner.
J'ai envie de dire, c'est assez triste, mais le studio n'a jamais aussi bien marché que pendant la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Allemands adorent l'esthétique Harcourt. Oui. Et ce sont des bons clients qui payent rubis sur l'ongle.
C'est Jacques Lacroix, à l'époque, qui dirige le studio ?
Alors, ce sont les frères Lacroix, donc Jacques et Jean donc deux frères que tout oppose, mais néanmoins soudés. On apprendra plus tard qu'en fait, Jean est un résistant qui œuvre en sous-main. Et puis, finalement, le studio Harcourt, durant ces années sombres, fonctionne un peu comme un salon mondain. C'est-à-dire que, vous savez, un peu comme ces lobbies de grands hôtels, type Dorchester à Londres, à savoir que grouille toute une faune. Vous avez aussi bien des collabos, des journalistes en mal de scoop, des demi-mondaines, des femmes du monde, des soldats galonnés avant de partir pour le front russe. Vous avez tout ce monde-là qui gravite et on vient se faire tirer le portrait.
Mais ce qui est drôle, c'est que depuis quelques années, enfin moi quand j'ai fait la photo, il y avait un autre code dans la maison Harcourt, c'est de ne jamais croiser personne.
Comme chez le psy.
On prend des rendez-vous de telle sorte que vous ne puissiez pas savoir qui est venu avant vous et qui vient après vous.
Pourquoi ? Parce que vous êtes une personnalité.
Oui.
Et donc, vous êtes ménagé.
Oh, mais j'aurais adoré voir des gens plus connus que moi. Des vrais stars.
C'est-à-dire que vous êtes bichonné, parce qu'en fait, finalement, vous êtes les ambassadeurs, malgré vous, de cette belle marque. Vous savez, autrefois, c'est les portraits des vedettes et des stars. Nous les retrouvions dans les couloirs des théâtres, des cinémas. Et donc, la clientèle dite ordinaire pouvait rêver devant ces portraits
mais
idéalisés.
Guillaume Évin, est-ce que ce n'est pas toujours le cas? Parce que ça représente encore pour une jeune actrice ou un jeune acteur, il y a le portrait par Harcourt. Je vois par exemple quand ils envoient pour les auditions ou les castings, c'est toujours mieux d'envoyer une photo Harcourt.
Ah, bien sûr, mais ça reste un label. Ils sont tous passés par là. Les Gabin, les Dietrich, les Delon, les Belmondo, Laetitia Casta. Tout le monde a eu son portrait Harcourt.
Si à 50 ans, tu n'as pas ton portrait Harcourt, c'est que tu as raté ta vie. Merci beaucoup, Guillaume. Je me plaisanterie. Guillaume Évin nous avoir emmené dans l'ombre des studios Harcourt et de cette incroyable Cosette Harcourt. Je rappelle le titre de votre livre, d'ailleurs, Cosette Harcourt, un studio de légende, disponible toujours aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est donc consacré à ces personnages qui ont shooté les plus grandes stars après Nadar et Cosette Harcourt. Vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai, hein, d'un fan qui était 100% ravagé, qui lui, hélas, a vraiment shooté une grande star.
Et oui, le 8 décembre 1980, Mark Chapman a demandé un autographe à John Lennon, qui lui a gentiment donné. Puis Mark Chapman a assassiné John Lennon. La question qui se pose est évidemment, que serait-il passé s'il lui avait refusé la dédicace? Ça aurait été encore pire.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages connus pour avoir shooté les plus grandes stars. Et parfois tristement connus. Hein, puisqu'après Nadar et Cosette Harcourt, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de Mark Chapman, l'homme qui a vraiment shooté John Lennon.
Tout le monde aime les Beatles. Il faudrait vraiment être un insupportable pseudo-mélomane puriste snobinard pour dire en écoutant les Beatles
« Ça va, c'est pas mal, mais c'est pas non plus top ».
Non, hormis quelques insupportables critiques portugais qui maintiennent que Linda de Souza c'est mieux, tout le monde aime les Beatles et tout le monde aimait John Lennon. John Lennon qui aurait pu nous offrir encore 10, 20, 30 tubes s'il avait vécu plus longtemps, mais non, car à seulement 40 ans, quick, ou plutôt... plus de John Lennon, emporté le 8 décembre 1980 par la folie d'un loser nommé Mark Chapman, rien à voir avec Tracy. Au cours de son procès, Mark Chapman ne va même pas plaider la folie, comme lui conseillent pourtant ses avocats, non. Il explique très concrètement avoir acheté l'arme du crime quelques mois avant le meurtre, avoir totalement prémédité son geste et avoir même dressé une liste de 3 autres victimes célèbres potentielles de l'époque au cas où le projet Lennon capoterait. À cette occasion, Prince et Elton John apprennent qu'ils ont eu chaud. Heureusement pour eux, ils n'étaient que des bouche-trous si d'aventure le plan Lennon foirait. Car le 8 décembre, la planète est sous le choc. Il y a des stars comme ça qui nous paraissent éternelles. Lennon en faisait partie, comme Elisabeth II ou Laurent Romeshko. Et puis, il y a ce foutu Mark David Chapman qui était, et c'est peut-être ça le pire, un grand fan des Beatles. La légende dit que, le soir, devant son miroir, il reprenait les tubes de John Lennon.
Imagine there's no heaven.
Oui, alors vous avez compris, quelque chose ne tourne pas rond dans la tête de Mark, comme le monde va le découvrir avec effroi ce 8 décembre 1980. Ce jour-là, dans la matinée, Annie Leibovitz, photographe de renom qui a pour habitude de prendre en photo des nourrissons dans des arrosoirs et accessoirement photographe officielle du journal Rolling Stones, immortalise le chanteur pour la toute dernière fois. Elle le shoot nu, en position fœtale, en compagnie de son épouse Yoko Ono. Le cliché deviendra culte. Bon, pas aussi culte que celui de Stéphane dit de la fleur de lys.
J'avais une branche de fleur de lys devant le sgeg.
Oui, mais assez culte quand même comme cliché. John, en tout cas, est de bonne humeur. Après la séance photo, il accorde une interview où il a cette formule qui fait rétrospectivement froid dans le dos, sachant ce qui va lui arriver dans quelques heures. Je considère que mon travail ne sera jamais fini jusqu'à ce que je sois mort et enterré. J'espère que ça sera dans très très longtemps. Aïe, quelle andouille, il s'est porté le mauvais œil. C'est comme ceux qui disent, c'est fou, en 2 ans, j'ai jamais chopé le Covid. Ça doit être ma superbe condition physique ou mon groupe sanguin. Nous autres, au plus, on est immunisés. Et bam, Omicron dans ta gueule. John, lui aussi, a parlé trop vite. La mort l'attend en embuscade. L'après-midi, John, toujours accompagné de Yoko, accroché à lui comme une moule de bouchot à son rocher, quitte leur appartement new-yorkais pour les studios où John doit enregistrer ce qui sera de fait son dernier titre, Walking on Thin Ice. Au pied de l'immeuble, des fans réclament des autographes. Parmi eux, Mark Chapman, qui demande d'abord une dédicace aussi. On sait depuis qu'il devait le tuer là, tout de suite, mais voilà, John signe et puis ajoute « Est-ce que c'est tout ce que vous désirez ?» Cette extrême gentillesse désarçonne quelque peu notre apprenti tueur, qui décide donc de repousser son meurtre à plus tard. Le couple s'en va et ne revient qu'à 22h50. La suite, on la connaît. 22h52, John Lennon reçoit 4 balles de revolver calibre 38 sous les yeux de Yoko Ono. Le chanteur déclare dans une ultime cri « je suis touché » avant de s'effondrer. Il meurt à 23h07, à tout juste 40 ans. Selon le rapport de police, le concierge couvre d'abord la victime avec son uniforme, lui enlève ses lunettes, puis seulement alerte la police. Pourquoi lui enlever ses lunettes avant de prévenir qui que ce soit? La buée peut-être, en même temps quand t'es mort c'est moins emmerdant, bref on ne sait pas. Mark Chapman, lui, est toujours là, peinard. Il attend qu'on le coffre, il s'assoit sur le rebord du trottoir, retire sa veste et son chapeau pour se mettre sans doute plus à l'aise. Assassiner, c'est fatigant. Le portier lui hurle « Tu sais ce que tu as fait ?» Ce à quoi le tueur répond « Oui, je viens d'abattre John Lennon. » Quand la police arrive, Mark n'a pas bougé, son revolver est à terre et il tient l'attrape-cœur de Salinger à la main, version poche, parce qu'en plus d'être meurtrier, Mark était aussi radin. Évidemment, on s'en doute, il plaide coupable, évidemment, il prend perpète, ce qui n'empêche pas le monde entier de se perdre en conjectures. Pourquoi a-t-on tué John Lennon? C'est tellement fou, tellement incompréhensible. Et si c'était plus compliqué que ça? Et si John Lennon n'était en fait pas mort, mais qu'il était simplement parti en vacances sur une île secrète avec Tupac, Michael Jackson, Kennedy et Guy Lux? D'autres, peu convaincus par l'hypothèse Guy Lux, ont cherché à établir un lien entre Chapman et le FBI. L'assassinat de John Lennon serait en fait politique, Stéphane. D'après ses experts, oui, John était juste avant sa mort sur le point de défendre des travailleurs japonais aux États-Unis qui se battaient pour leurs droits. Et ça, ça dérangeait la Maison-Blanche, évidemment. Mark Chapman n'était donc qu'une simple marionnette dans cette histoire. L'hypothèse tient moyennement la route. Mark a plutôt le profil du loup solitaire, ou plutôt du loser solitaire. Sa vie est un naufrage lent. Né en 1955 d'un père sergent de l'US Air Force qui le cogne, il sombre à l'adolescence dans le LSD, fugue, écoute les Beatles, vit un traumatisme amoureux puisqu'il trompe sa compagne qui l'aimait pourtant follement, elle l'apprend, elle le quitte, il ne se le pardonne pas et s'enfonce dans une dépression qui va devenir chronique. Il écoute toujours les Beatles, mais leur succès, surtout comparé à sa déchéance à lui, commence à l'agacer. Le contraste entre sa vie et celle de John, c'est vrai, a de quoi agacer. En 1977, il décide de se donner la mort par intoxication au monoxyde de carbone dans une voiture. Pas de bol pour l'histoire de la musique, mais même ça, il n'est pas foutu d'y arriver. Il réchappe donc de cette tentative de suicide et devient vigile dans un parking de nuit. Pour supporter cette condition, Mark se met à boire, ce qui a rarement amélioré un état dépressif. Bref, Mark continue d'écouter John Lennon, mais il est jaloux. Et on sait comment sa jalousie va s'exprimer. Des lunettes ensanglantées en témoignent, lunettes que Yoko Ono a conservées, qu'on retrouvera sur la pochette de l'album posthume de John Lennon. En 2020, la 11e demande de libération conditionnelle de Mark Chapman est à nouveau refusée, malgré un vive mea culpa du prisonnier, je cite « C'est le pire crime qu'on puisse commettre, faire ça à quelqu'un d'innocent. C'était un père de famille, une icône, et je l'ai assassiné. Je veux dire que je comprends à quel point c'était un acte égoïste, et je suis désolé pour le chagrin que j'ai causé, j'y pense tout le temps. » C'était bien parti, cette lettre au juge. En vue d'une remise en liberté, le juge aurait peut-être craqué si Mark s'était arrêté là. Hélas pour lui, après il entre un peu plus dans le détail. « À l'époque, je pensais qu'il avait plein d'argent et qu'il vivait dans un bel appartement alors que sa musique incarnait un mode de vie plus prudent et généreux. Ça me mettait en colère et ça me rendait jaloux lorsque je comparais sa façon de vivre à la mienne. » Oui, bon, arrête, Mark, pose ton stylo. Mais non, Mark, continue. Tout ça, c'était juste pour la gloire, rien de plus. Il n'y a pas d'excuse. Je savais que c'était mal, mais j'ai fait ça pour la gloire, juste la gloire. Il était tellement connu, incroyablement connu. C'est uniquement pour ça qu'il était en haut de ma liste. Oui, autant la fermer, Mark. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. De toute façon, Yoko Ono s'y oppose encore et toujours, par peur notamment que Mark Chapman s'en prenne à elle ou au fils du chanteur. Elle redoute aussi que des fans des Beatles veuillent se venger et se livrent sur Mark à une véritable boucherie. Mark Chapman, l'homme qui a tué John Lennon, va donc rester en prison et comme vous aurez oublié son nom dans 5 minutes, non, il n'a même pas réussi à devenir célèbre par son acte odieux. Un acte qui, au vu de son profil, aurait pu probablement être évité s'il avait été pris en charge psychologiquement. Guidé par un thérapeute, cette folie, qui prenait sa source dans un profond mal-être, Chapman aurait pu l'exprimer différemment.
En jetant des Tupperware pleins de jus de raisin à travers la pièce.
Par exemple, David, ça c'est ce que votre psy vous a conseillé de faire et ça marche bien, puisqu'à ce jour, bon, bah, ça vous a coûté cher en jus de raisin et en shampoingage de moquette, mais vous n'avez tué personne. Enfin, tout ça ne nous rendra pas Lennon, qui restera toujours dans nos cœurs. Vous vous souvenez, Stéphane, de la première fois que vous avez entendu une chanson des Beatles?
J'avais une branche de fleurs de lys devant le Sgeg.
Ah oui, pour une soirée alors. Non.
Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour pour renouer, Mathieu, avec notre vie quotidienne maintenant.
Oui, et le quotidien d'Olivier Pouls, qui voyage souvent en Inde ou passage Brady à Paris, c'est le cheese naan.
J'adore manger indien.
Nous aussi, mais nous allons découvrir, mystifier que le cheese naan n'a rien à voir avec l'Inde.
Mais là, en fait, je commets une erreur, parce que je ne mange pas vraiment indien.
Mais voilà, donc on va voir c'est pas d'où, indien. D'où vient le cheese naan. Mais d'abord, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines de quelque chose qui, pour le coup, fait vraiment notre quotidien. Si on habite dans une grande ville, c'est l'appli Uber.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre avec le chroniqueur qui dépense plus pour sa chronique qu'il ne gagne pour sa chronique, puisque à chaque fois, David Castel-Lopez, vous nous faites des cadeaux, vous nous offrez des Playmobil quand vous parlez de Playmobil. Et en plus, tout ça, vous arrivez à Europe 1 en Uber.
Tout à
Donc,
fait.
D'où vient le Uber, cette appli qui a changé notre vie?
Moi, je me souviens très bien de la première fois que j'ai pris un Uber. C'était un soir d'octobre 2014. Et j'ai, comment dire, halluciné ma race. Voilà, je pense que je n'ai pas été le seul.
Ouais, pareil.
Parce que comme tout, voilà, comme tous les Parisiens, j'étais habitué aux taxis parisiens qui étaient chers, qui arrivaient souvent déjà avec une grosse somme au compteur, qui étaient souvent désagréables et qui ne prenaient jamais la carte bleue parce que, désolé monsieur, la machine ne marche plus. Et tout à coup, on avait Uber, des courses qui coûtaient trois fois moins cher, avec des chauffeurs adorables, des bonbons, des petites bouteilles d'eau et même pas besoin de sortir sa carte bleue parce que c'était une application. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de prendre des taxis. Et en quelques mois, à peu près tous les gens que je connaissais ont fait pareil. Bon, aujourd'hui, ça a changé un petit peu, Uber. Mais avouez que ça donne quand même envie de savoir d'où vient Uber. C'est assez dur de savoir exactement comment a germé l'idée d'Uber, dans le sens où on est obligé de croire ce que nous disent les gens qui ont créé Uber, et que souvent les entreprises ont tendance à faire du storytelling bien organisé pour expliquer leurs origines. Mais disons que l'histoire que Uber raconte, c'est qu'en décembre 2008, deux de ses fondateurs, qui s'appelaient Travis Kalanick et Gareth Kemp, ils étaient à Paris pour assister à une conférence de gens de l'Internet qui s'appelait Le Web, et ils n'arrivaient pas à trouver de taxi, et ils se sont dit « Eh tiens, et si on créait Uber ?» Mais l'idée de départ, ce n'était pas tout à fait celle-là, ce n'était pas celle de faire un service de VTC à la demande, c'était beaucoup plus tarabiscoté comme idée, c'était de faire un service de limousine en temps partagé. Vous savez, comme quand vous achetez un appartement pour une semaine par an et on aurait pu réserver sa limousine à temps partagé avec une application. J'ai pas tout à fait compris comment marchait leur affaire, mais quoi qu'il en soit, l'idée a quand même changé assez vite. Et en 2009, donc l'année d'après, Gareth Kemp, il a acheté le nom de domaine ubercab.com et il a commencé à travailler sur le concept. C'était pas un rookie quand même, c'était lui qui avait créé StumbleUpon. Je sais pas si c'est une application dont moi, que tout le monde utilisait quand j'étais aux États-Unis et qui vous permettait de trouver un site internet qui vous proposait des sites internet au hasard, un petit peu comme ça, et vous pouviez découvrir des choses comme ça.
Il avait vendu il avait vendu son
entreprise de 75 millions d'euros.
Alors, ce qui permet de
voir ce qui permettait de voir venir. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il a donc Gareth, il a assemblé une petite équipe dont son ami Travis Kalanick, avec lequel il était à Paris au début 2010, et ils ont testé leur application pour la première fois à New York avec seulement trois voitures début 2010. Mais à ce moment-là, Uber, c'était uniquement des voitures de luxe. Et ça coûtait une fois et demie le prix d'un taxi. C'est uniquement en 2012 qu'est né le Uber pas cher qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, j'en ai entendu parler qu'en 2014. Pourquoi ? Eh ben parce que c'était à ce moment-là qu'il y avait en France ce qu'on appelait le Uber Pop. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était des chauffeurs qui n'étaient pas des chauffeurs professionnels, mais des particuliers qui voulaient bien donner de leur temps pour conduire des gens. Et Uber Pop, ça coûtait vraiment rien du tout. C'est-à-dire qu'on pouvait traverser Paris pour 10 euros. Bon, ça a duré que quelques mois, parce qu'évidemment, les chauffeurs de taxis ont dit que c'est de la concurrence déloyale. Et on leur a donné raison. Mais en tout cas, en quelques années, Uber, c'est devenu l'une des plus grosses entreprises du monde, présente dans des centaines de villes, mais qui continuait à perdre de l'argent. Parce que ça, c'était une des stratégies d'Uber, c'était être pas cher pour étouffer la concurrence, quitte à perdre de l'argent, et une fois qu'il n'y aurait plus que eux sur le marché, eh bien, augmenter les prix. Ça, je ne sais pas si ça a complètement marché, en tout cas, il y a quelques fois maintenant, quelques trimestres où Uber gagne un petit peu d'argent, donc imagine que ça a un petit peu marché quand même. Après, c'est devenu quand même un des diables du capitalisme, du nouveau capitalisme dans l'opinion publique, Uber.
Parce
qu'ils ne payent pas leur TVA. C'est du salariat déguisé pour beaucoup, etc. Oui, c'est ce qu'on dit, l'ubérisation de la société, on ne va pas dire que c'est un truc cool. Vous voyez, c'est un truc pas bien. Quoi. Et en plus, en 2017, rien à voir, mais leur PDG et l'entreprise dans son ensemble a été accusée d'être sexiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez Et Travis Kalanick, il a dû démissionner de Uber. Et tout ça, ça s'est revu en même temps que le moment où je me suis rendu compte que les Uber avaient un petit peu changé. Oui. En tout cas, dans mon expérience à Paris, c'était devenu un petit peu moins sympa. Oui. Les petites bouteilles d'eau, elles ont commencé à disparaître. Ils ont commencé à annuler des courses à tout va, 5 minutes avant d'arriver.
Et dans le même temps, les taxis parisiens se sont drastiquement améliorés. Ils n'arrivent plus avec des sommes super élevées au compteur. Ils ont aussi une application. Ils sont plus gentils qu'avant. Et eux, ils annulent jamais. Donc, moi,
et puis eux peuvent prendre les couloirs de bus.
Exactement, ils peuvent prendre les couloirs
et
de bus.
Et ils ont les forfaits pour les aéroports, ce qui était quand même l'un des gros points faibles.
C'est vrai. Exactement. Et donc, moi, j'ai recommencé à prendre des taxis. Et on ne sait pas... Alors, Uber, c'est peut-être pas... C'est sans doute pas des gens très bien. Mais ils ont quand même... un petit peu comme un homme politique qui arrive dans une campagne et qui a des idées mais qui n'est pas élu mais qui quand même influence les autres candidats. Mais en quelque sorte on pourrait dire que Uber a un peu influencé pour le bien les taxis.
Tous les VTC d'une manière
tous
générale,
les VTC en général,
parce qu'il y avait chauffeurs privés et d'autres.
C'est vrai,
ils ont obligé les taxis parisiens à se former
mieux.
Merci Uber.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Et puis tout de suite, on prend la direction de l'Inde. Enfin, on croit prendre la direction de l'Inde, mais on se trompe.
Dans votre Uber Eats, par exemple,
Uber Eats, pour parler du cheese naan. Ouais. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
À la fois si près, si loin des choses, aveuglés sur les écrans névroses, d'évidence on s'invente des vies qui s'opposent. Au cœur de la nuit, le jour, au cœur du cœur de ma vie, l'amour, atome ultime dans un ultimatum, voilà l'homme.
Rivalité, c'était M sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, on parle du cheese naan, Olivier Pouls. Vous pensiez que c'était indien, moi aussi, mais non.
Alors, j'imagine que tous ici autour de la table, vous êtes comme moi, vous êtes fan de cuisine indienne.
Oui, moi, oui, plutôt. Oui.
C'est quand même vraiment bon.
Ah, oui, c'est délicieux. Après, non, David, c'est, non. C'est...
Bah, si j'adorais, mais je suis parti en Inde et j'ai failli mourir d'essai de la nourriture. Oui. Donc, depuis, je me suis un petit peu calmé avec la nourriture.
Indienne à Paris, il n'y a pas de danger. Tout va bien.
C'est très épicé parfois.
C'est parfois très épicé.
Le côté aigre-doux. Il faut aimer.
Moi, j'aime bien. Puis toujours, pour accompagner ma cuisine indienne, pour saucer les plats notamment, je commande toujours des cheese naan. Vous savez, ces petites galettes à base de farine et à base.
Il y a du fromage.
De fromage. Bah oui, cheese naan, ça l'indique. Il faut savoir que le naan, c'est un pain traditionnel sans levain qu'on trouve depuis des siècles dans de nombreux pays du monde, hein, d'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est, dont les pitas sont des cousins. Ça, c'est pas le sujet et on peut pas définir exactement où c'est né, mais enfin, il y a des dizaines de pays qui le font de manière plus ou moins différente. Alors en Inde, par exemple, on le cuit dans un four tandoor, qui est un four en terre cuite. Et qui permet la cuisson de ce pain.
Qui permet de faire le poulet tandoori.
Exactement. Ah, ouais. Mais ce fameux cheese naan, finalement, il a une autre histoire. Et là, je vais vous surprendre, les amis, car c'est à Paris qu'est né le cheese naan.
Mais dans un restaurant indien.
Alors,
Uber est né à Paris, le cheese naan est bien à Paris. Ouais.
Alors, il y a deux versions, je vous les livre. Il y a une petite guéguerre. Hein. La première prétend que le cheese naan serait né en 1976. Il serait le fruit de l'imagination de la famille Gupta, qui était originaire de Bombay et qui tenait un des premiers restaurants indiens à Paris, Indra. Et ils auraient eu l'idée de rajouter du fromage pour donner un côté un peu plus onctueux dans cette préparation. Et il y a un autre monsieur qui se revendique le père de cette création. C'est M. André Risser, je crois qu'il est mort malheureusement, mais en tout cas sa famille prétend que c'est de lui que cela vient. C'est quelqu'un qui avait longtemps vécu à Londres dans les années 1950 et il a ouvert à Paris en 1967 un des tout premiers restaurants indiens. Il a importé la cuisine indienne à Paris qu'on ne connaissait vraiment pas et on dit qu'il aurait inventé le cheese naan pour franciser un tout petit peu certains plats indiens.
C'est sûr qu'en foutant de la vache qui rit dedans, ça francise bien.
Ah, évidemment. Alors, je ne sais pas si dans sa recette originale il y avait de la vache qui rit, mais c'est vrai que dans la grande majorité des cheese naan qu'on achète dans les restaurants indiens, ils sont souvent faits avec de la vache vache-qui-rit. Alors, je fais une petite parenthèse. La vache-qui-rit, c'est pas si abominable que ça. Hein. C'est,
ah bon,
c'est du fromage fondu.
J'ai l'impression que c'est vraiment.
Je raconterai un jour l'histoire de la vache-qui-rit. Non, il n'y a pas de produit chimique. En fait, c'est un produit qui est tout à fait sain. Vous pouvez en manger, il n'y a, okay, aucun problème.
Ah, c'est une bonne nouvelle.
Mais par contre, je vais vous expliquer, si vous voulez, comment on peut faire des chignanes. Vous allez pouvoir. Mais c'est très, très facile à faire. Il vous faut 300 g de farine, une petite cuillère à café de levure, une pincée de sel, une pincée de sucre, un trait d'huile, un yaourt. Et puis du fromage, en l'occurrence des vaches qui rient. Prenez 4 portions de vaches qui rient. Ou alors, si vous préférez donner un petit peu plus de caractère, vous pouvez prendre du comté, par exemple, du comté râpé. Donc on va faire une
pas
pâte
de
maroine, à pain.
Hein, pas des poisses. Quand même,
alors, certains le font. Mais vraiment pour donner au chignan un côté, voilà, oui, voilà, beaucoup de caractère. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc vous allez mélanger la farine, la levure, le sel, le sucre. On va faire un petit pouille là-dedans. On va rajouter les liquides, c'est-à-dire le yaourt bulgare, un petit trait d'huile et un tout petit peu d'eau pour avoir une pâte légèrement élastique. Une fois qu'on a cette pâte, on laisse reposer 3-4 heures. On étale, on en fait 4 petites boules différentes. On étale les boules qu'on arrondit. Au milieu de chacune, on met une petite vache qui rit ou un petit tas de fromage râpé. On fait ce qu'on appelle une abaisse, c'est-à-dire qu'on rabaisse les côtés et on réétale la pâte. Et on la cuit dans une poêle très chaude avec un tout petit peu de matière grasse, d'huile par exemple. Puisque ce n'est pas une cuisson au four, c'est vraiment une cuisson qui se fait au contact. Et vous avez des cheese nans. Et puis il n'y a plus qu'à faire le poulet tandoori pour aller avec. Ou le curry, ou le tikka masala, ou tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est une toute autre histoire.
Eh bien, merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, eh bien, vous allez voir, ça va être aussi épicé que la cuisine indienne.
C'est vrai.
C'est la lutte finale. Maintenant, on va s'affronter avec l'histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Tiens Mathieu, je vais commencer. Vous connaissez le principe, oui. J'ai pas besoin de vous... Là, c'est bon, non,
oui,
non.
C'est bon, c'est
hein,
bon.
Oui.
Alors, Mathieu, Jean Renoir, deuxième fils d'Auguste Renoir, réalisateur de cinéma français,
la règle du
à
jeu.
Qui l'on doit la bête humaine avec Jean Gamin. Oui. Est-ce qu'il a connu Bison Futé, Jean Renoir?
Je vais vous dire, vous me fatiguez avec vos questions, oui. Stéphane. Et c'est pas moi qui poserai des questions ridicules comme ça dans un quiz pseudo-historique.
Oui, vous faites ça
si
tout
j'avais
le temps.
Un quiz, moi aussi, je ne me permettrais pas de poser des questions comme ça. Écoutez, donc là, vraiment, c'est difficile parce que... Évidemment, ça peut être aussi un an près. Je dirais, oui, je dirais qu'il a connu Bison Futé.
Oui, bien, oh, bien.
Vous me dites comme un non, petit enfant.
C'est suite au chassé-croisé de 1975 où la canicule et les 600 km de bouchons vont faire 145 morts. L'année suivante est créé Bison Futé. Tout un système pour organiser le désengorgement de nos routes. Jean Renoir, lui, va disparaître en 1979, donc 4 ans plus tard, à 84 ans. David, Charlie Chaplin a tourné un film en couleur. C'est vrai ou c'est faux?
Le roi de Hong Kong de New York, là, c'est pas...
Ça, c'est Eddie Murphy, ça. Tu confonds, mec.
Je dirais oui.
Ouais. Alors, il y avait un piège, mais vous l'avez évité.
C'est quoi?
C'était la comtesse de Hong Kong, voilà. Avec Sophia Loren et Marlon Brando. Il n'a pas joué dedans. Mais il l'a réalisé, il a donc tourné, oui, un film en couleur. Son dernier film.
Alors
là, il est fort, le David.
Oh, il est impressionnant. Ouais.
Olivier, en France, qui a eu le droit de voter en premier? Les femmes ou les militaires?
Les militaires... Tous les il n'y a pas un vote, il y a pas de piège dans la question. Elle est ridicule dans ce cas-là.
Sauf
à moins que les militaires étaient un corps particulier qui n'avait pas le droit de vote. Non, je peux pas y croire. Les militaires.
Oh,
bah, qu'est-ce que c'est,
voilà,
c'est,
y a les femmes piège, ont tenu le droit de vote en 1944 par ordonnance du général de Gaulle. Et les militaires ont obtenu le droit de vote le 17 août 1945.
Je ne comprends pas, Stéphane. Les militaires, c'est des hommes. C'est
non, parce
individus,
que
c'est des citoyens.
Un truc de réserve.
Mais en tant que militaire, ils étaient tenus à une certaine réserve.
Je me doutais bien.
Bah, c'est plus qu'une certaine réserve. Ils n'avaient pas le droit de voter, quoi.
Oui.
Mais je me doutais bien qu'il y avait un piège comme ça.
La question qui départage messieurs Mathieu Noël et David Castillo-Lopez. En mars 1974, est découverte dans la province du Shaanxi. En Chine, la prodigieuse armée de soldats en terre cuite datant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Bon, il y a combien de soldats?
On a compris, oui.
Je ne vous demande pas le nombre de chars, le nombre de chevaux. Hein. Je vous demande le nombre de soldats en terre cuite. Hein. Combien
est-il? Attendez, est-ce que vous me donnerez le nombre de soldats qui ont été mis à nu ou le nombre de soldats total?
Bah, je ne vous demande pas le nombre de soldats qu'il avait dans son armée. Combien il y a de soldats de...
Non, c'est pas quelque chose. Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'on a mis à nu tous les soldats, toutes les...
Ah
toutes
oui,
les...
oui, oui, bien
ah,
sûr.
Oui, d'accord.
Ceux qu'on n'a pas mis à nu, on n'a pas pu les compter. Hein.
On aurait pu... Bon, Stéphane, je dis 628.
628. Et vous
1620.
Ouais, vous gagnez, mais vous gagnez de très loin. Hein. Pas de très loin, je veux dire. Vous êtes loin du compte.
Il y a 8000.
Il y a
5000
ah, il y a 8000 soldats.
Ah ouais.
130 chars, 520 chevaux. Bon, enfin bon, c'est une petite victoire de David, mais il
mais
avait non, bien répondu.
Bah,
parce que 1200.
Bah, oui, c'est, bah, oui, mais c'est dans les 1000, quoi. Oui, oui moi je voyais ça plus petit, mais okay. C'est vrai que les Chinois font tout en grand.
Ouais.
Eh bien, c'est une victoire absolument incontestable de David Castello-Lopez. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré à ces personnages qui ont shooté les plus grandes stars. On en a oublié un, Stéphane, celui qui vous avait photographié avec la fleur de lys entre les jambes, mais on l'a pas retrouvé celui-là. C'était dans le cadre. C'était où cette photo, Stéphane?
C'était pour mes 40 ans dans Paris Match. C'était une photo
ah, c'était
pour
Paris Match,
Match oui.
Oui. C'était la une de Paris Match.
Elle était en petit. Elle a failli faire la photo en une. Ouais. Elle était en petit sur la une.
Ah oui,
on sait déjà
en
ça.
Médaillon. Ouais.
Oui, c'était la photo qui était en petit sur la une. Bon, bref, ouais. Demain, à quoi faut-il s'attendre, Stéphane?
Demain, on réunit trois grands tricheurs de l'histoire. Donald Crowhurst, le navigateur qui a triché dès la première course autour du monde. Rosie Ruiz, qui a remporté le marathon de Boston.
En trichant?
Bah oui, sinon, elle serait pas dans le lot. Hein. On n'en parlerait pas.
C'est vrai. Et puis lui aussi, on va en parler. Charles Ingram, le candidat anglais de Qui veut gagner des millions, qui a triché. Ah non, pas bien du tout même. Alors à demain Stéphane, à demain les amis.
À demain Mathieu, à suivre, c'est Europe Soir avec Raphaël Delvolvé.